Merci Tiffaine et bon week-end. Spécial Victor Hugo sur France Culture et ça commence dès aujourd'hui avec deux invités, Vincent Gilles et Gérard Pouchin, pour un Hugo caricaturé à vif et à plein en une de la presse de son temps.
La Compagnie des Poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Gérard Pouchin, Vincent Gilles, bonjour, bienvenue à tous les deux. Tous deux penchés sur le cas Hugo, donc côté ombre et côté lumière, versant lumière avec l'exposition Caricature Victor Hugo à la Une, ça c'est à la maison de Victor Hugo à Paris, dont vous êtes le commissaire, Vincent Gilles, et vous signez à cette occasion un copieux catalogue, et comme ça tombe bien, Gérard Pouchin, vous avez consacré pas moins d'une dizaine d'ouvrages et expositions à l'écrivain et homme politique abondamment croqué par la caricature. Et versant ombre, toujours avec vous Gérard Pouchin, et je précise que vous êtes avec nous depuis France Bleu Normandie à Caen, versant ombre donc, vous traquez dans Choses Nocturnes aux éditions Le Vistan Boire, l'un des rares pans de la vie de Hugo qui est échappé, en tout cas en partie, au coup de crayon de la presse, hein, ses relations turbulentes, tumultueuses, inquiètes, atmosphériques, célestes, parfois même ésotériques avec la nuit, autant de phénomènes que vous collectez au gré des carnets de l'auteur du Roi s'amuse. Un extrait de l'acte 2 de Rigoletto de Verdi, interprété par Piero Cappuccilli dans la peau du bouffon, hein, sous la baguette de Carlo Maria Giulini. Un Rigoletto très inspiré du Roi s'amuse, hein, qu'Hugo présente à la Comédie Française en 1822 et qui sera suspendu après une seule représentation. Un événement de plus dans la longue liste des coups d'éclat qui agitent la vie publique de Hugo et seront rapportés dans la presse, le grelot, le charivari, l'éclipse, le bouffon, la silhouette, le pétard, le caricaturiste, La Lune, ça c'est pour quelques-uns des titres, Daumier, Benjamin Roubaud, Nadar, Philippon, Cham, Gilles, Le Petit, ça c'est pour les crayons et les pinceaux. Pas moins de 180 d'entre eux sont exposés à la maison de Victor Hugo, hein, des dessins qui caricaturent le poète, l'écrivain, le député, l'académicien, le sénateur de 1830. Très exactement, même de 1830 à 1885, hein, du Hugo forte tête des romantiques à la conscience morale des dernières années. À parcourir l'exposition, on se le demande, on est en droit de se le demander, Hugo est-il le seul à occuper une telle place en une de la presse, Vincent Gilles? Est-ce qu'il y aurait d'autres figures au XIXe siècle qui pourraient rivaliser avec lui?
Sans doute, Gérard Pouchin dit que c'est effectivement la personne qui a le plus été caricaturée. J'ai pas recompté, je lui fais confiance. Je pense que des gens comme Napoléon ont été quand même beaucoup caricaturés. Je pense que Thiers et Gambetta ont été beaucoup caricaturés. Et à la fin du siècle, je pense que Zola ou Pasteur ont été des gens qui ont aussi été énormément caricaturés. L'immense avantage de Hugo, c'est qu'il a vécu quand même très très longtemps par rapport à beaucoup d'autres, et que ces multiples casquettes font qu'effectivement il y avait pour les dessinateurs beaucoup d'occasions de parler de lui. Il avait une actualité, comme on dirait maintenant, assez importante et sous plein d'aspects. Donc ça favorise le nombre.
Et qu'il a pas mal changé d'avis aussi, on y reviendra. Alors avant d'entrer dans le détail, j'allais dire, du corps d'Hugo, parce que c'est aussi une histoire de corps qui s'écrit dans cette exposition, et puis des sentiments qu'il inspire à l'opinion, un mot peut-être sur l'histoire de la presse satirique que dessine en creux, au fond aussi, cette exposition, qui est une histoire secouée par les changements politiques, par la censure aussi, hein, ça va, ça vient, ça se précise, parfois sur ceci, parfois sur cela, hein, l'Anastasie, mais une histoire vive en tout cas et en plein essor. Comment cet essor-là, cet âge d'or-là, nous renseigne-t-il sur l'époque, c'est-à-dire l'époque d'Hugo, hein, qui court en gros de la monarchie de Juillet à la Troisième République?
Alors effectivement, il y a des tas, on peut être surpris, il y a des tas de passages importants de la vie de Hugo qui ne sont pas représentés. C'est pas qu'il y a pas, c'est pas qu'on n'ait pas les caricatures dans les collections de la maison de Victor Hugo, c'est qu'il n'y en a pas. En fait, cette histoire permet de lire, si je puis dire en négatif, l'histoire très compliquée et très enchevêtrée des lois sur la presse du 19e, qui sont quand même très nombreuses, qui, à deux ou trois exceptions près, sont généralement très liberticides. Et en fait, on peut compter plus les moments de liberté que les moments de censure.
Qui sont
grosso modo de 1830 à 1832-35.
Et qui petite sont fenêtre.
Petite fenêtre et qui sont au début de la Seconde République, de février 48 jusqu'à l'été 48. Après, très vite, le couperet retombe. Ils ont repris, ils ont rien inventé, en fait, les multiples obstacles qu'on faisait aux journalistes, qui étaient l'autorisation préalable, la censure préalable, la censure économique qui portait sur le droit de timbre, et puis la pression judiciaire, puisqu'il y a quand même beaucoup de procès, contre ça. Il y a même certains dessins qui sont présentés dans l'exposition, qui ont d'abord fait l'objet de censure, qui n'ont été publiés que beaucoup plus tard. Je pense, par exemple, à un dessin de Gilles, au moment de la sortie de 93, qui n'est publié qu'un an après, en fait, sa réalisation.
Qui représente quoi?
Qui représente le Victor Hugo en train de sculpter les bustes de Danton, Marat et Robespierre. Et puis, il y a un petit gamin dans sa poche, en fait, qui lui sculpte sur le côté d'un buste des petits mots légers. Popo, caca, pipi, je crois, des choses comme ça. Et la censure a arrêté le dessin. Victor Hugo est intervenu à la demande du journal en expliquant qu'il trouvait ça charmant et qu'il voyait pas d'obstacle à la présence de ce petit enfant. Et la censure a maintenu l'interdiction. Donc le dessin, je crois, date, si ma mémoire est bonne, de 1874. Il n'a été publié qu'en 1875.
Et donc, c'est d'autant plus navrant, Vincent, si vous permettez, c'est que finalement, Gilles a tenu à glisser dans son dessin la représentation de sa petite fille. Donc c'est le papa heureux d'avoir un enfant et qui a glissé comme ça sur le côté droit du dessin un enfant qui vient de naître ou presque, qui était en train d'écrire quelques mots. Donc voilà, ce dessin était censuré. Il y avait Victor Hugo, il y avait une petite fille à ses côtés. Mais je ne sais plus quelle date précise, sous le Second Empire, et il en ira de même sous la Troisième République, pour que la caricature soit publiée dans un journal, dans un périodique, il faut que préalablement, la personne qui sera croquée donne son acceptation. Et Hugo a toujours accepté, au nom de la liberté de l'artiste, au nom de la liberté du créateur, de se voir croquer sans savoir à quelle sauce il allait être assaisonné. Sauce aigre ou sauce plus douce. On a d'ailleurs certaines caricatures, je crois me souvenir que l'une d'entre elles est même exposée donc à Place des Vosges, où au bas de la première page, il y a de la main même de Victor Hugo, j'autorise X, Y, Carja, j'autorise Monsieur X, donc à faire de moi ce qu'il voudra, signer Victor Hugo. C'est une obligation, et Hugo donc a toujours accepté donc d'être tourné en ridicule s'il le fallait, au nom de la liberté de la création.
Ce qui ne lui arrive pas si souvent que ça. On va y revenir. C'est peut-être pour ça aussi. Et même lorsque les caricatures sont féroces, j'imagine que ça caresse son ego néanmoins.
Ça caresse son ego et ça caresse son. On a mis en exergue de l'exposition une phrase qui est beaucoup plus ancienne, qui date des Orientales, de l'époque des Orientales, où un de ses amis vient se plaindre, enfin auprès de lui, ou remarquer que un article est mauvais sur un des poèmes des Orientales, et Victor Hugo lui répond: tout est bon, tout article est bon. Donc ça sert. Victor Hugo a très très vite compris que il avait besoin de la presse, il avait besoin de cette. Le mot n'est pas péjoratif dans ma bouche. Il avait besoin de publicité pour son travail d'écrivain et que la presse était importante. Et il a toujours tout fait pour se, non pas s'accorder les bonnes grâces de la presse, c'est pas du tout ça, mais pour que il savait qu'il profitait aussi de l'image qu'on donnait de lui et de la publicité qu'on lui faisait.
Et pour compléter Vincent, je me souviens d'un mot de Rebaud dans la, il a une trentaine d'années, qui dit à un de ses amis, finalement, l'essentiel c'est qu'on parle de moi, que ce soit donc un moellon ou du marbre qui soit utilisé, l'essentiel c'est qu'on ait parlé de moi.
C'est la citation qui est au début de l'exposition.
Qu'est-ce que vous diriez l'un ou l'autre, pour en finir avec cette petite histoire parallèle de la presse satirique, qu'est-ce que vous diriez de ce qu'est la caricature à l'époque, en fait, de ces canons, de ces types, et puis surtout de sa fonction?
Et là, je pense, ils inventent Philippon, grâce à Philippon, qui est un des grands créateurs de presse à l'époque, qui est le créateur du Charivari et beaucoup d'autres journaux après le Charivari. Et qui est le premier journal qui fait sa publicité en disant il y aura un dessin dans chaque numéro, donc, et qui offre sa plume à des immenses.
C'est-à-dire chaque jour.
Chaque jour à des immenses dessinateurs comme Daumier, comme Cham, comme Gilles. Ils ont quasiment tous fait leur premier pas dans le Charivari. Quand j'ai fait l'exposition, on a en 2018 une certaine image de Victor Hugo qui maintenant est un peu consensuelle. Ça reste une figure immense, mais qui n'est plus remise en cause d'une certaine manière et qui n'est plus vraiment critiquée. C'est pas péjoratif là encore. Et en faisant cette exposition, je découvrais avec bonheur que ça n'avait pas toujours été évident et que Victor Hugo avait dû se coltiner, si je puis dire, avec un certain nombre de regards qui étaient suspicieux, qui étaient méfiants, qui n'étaient pas d'accord, qui étaient ironiques, parfois assez féroces. Parfois bien trop féroce et avec des arguments qui doivent être jetés, mais qu'il avait été en but, en tout cas, à ses sentiments partagés. Et de me rendre compte de ça concrètement, de dessin en dessin, c'est quelque chose qui m'a plutôt réjoui.
La première salle montre l'une des toutes premières caricatures, si ce n'est la première caricature d'Hugo. Alors c'est assez intéressant parce que si c'est la première, c'est probablement la seule qui se passe de lui, en tout cas qui se passe du corps d'Hugo, qui est une sorte de dessin d'anticipation anonyme daté de 1830, une vue du Père Lachaise. On y voit la tombe d'Hugo en 1930, donc un siècle plus tard, avec un crâne ailé posé dessus. Quelques jeunes titres de ses œuvres gravés, un exemplaire du Figaro et du Globe au pied du caveau, et puis une espèce de minuscule tombe comme satellisée autour de Hugo, Musset, Dumas, Vigny et Sainte-Beuve. Hugo, à ce moment-là, 28 ans. Quel enseignement tirer de cette première caricature? Qu'est-ce qu'elle pourrait dire déjà et de Hugo et au fond de la scène littéraire autour de 1830? Vincent Gilles.
Effectivement, dans la légende en dessous de l'estampe, il y a un petit quatrain et il y a une légende qui dit caricature par un membre de l'Académie des Welsh. Le mot caricature, c'est apparemment, nous on pourrait penser que ça n'est pas une caricature puisque entre autres il n'y a pas de représentation de Victor Hugo. Simplement, c'est dans le mot figure dans la légende en fait. Elle est très surprenante pour quelqu'un qui a 28 ans qui ça prouve déjà qu'il a suffisamment écrit, qu'il a suffisamment pris d'importance dans la vie littéraire pour qu'on lui on s'intéresse à lui en l'isolant et en essayant. Bon, il y a sur le côté de la tombe, il y a l'ensemble des œuvres qu'il a publiées jusque-là. Voilà, il a déjà suffisamment important à 18 ans par rapport aux autres pour qu'on lui consacre
28 ans
et on lui consacre une tombe qui, par comparaison avec ceux des pauvres poètes qui sont à côté, est quand même bien plus importante. Je veux dire, c'est la grosse tombe par rapport aux petites tombes qui sont à côté. Donc pour moi, c'est ça que ça veut dire. C'est que ce bonhomme a 28 ans, il a publié quelques romans, deux ou trois recueils de poèmes. Quelques pièces de théâtre, il commence à être connu comme dramaturge, voilà. Il est déjà la forte tête et il est déjà en tête du cortège. Alors là, c'est un cortège funèbre puisque on est dans un cimetière, mais il est déjà en tête du cortège.
Est-ce qu'on ne devrait pas aussi l'enterrer finalement? Il est jeune et finalement il dérange peut-être certains et le mettre dans une tombe à 28 ans, c'est peut-être aussi une façon de montrer que Hugo, bien, il a fait son temps déjà et on peut le mettre en terre. Pourquoi pas?
Alors, un premier Hugo sans corps, hein, je le disais, sans doute le dernier. À partir de là, Hugo se fixe. À partir de 1830, avec ses attributs. En tout cas, le premier corps de Victor Hugo, hein, celui d'avant l'exil. Alors voilà ce que Théophile Gautier en disait dans son Victor Hugo. Le front vraiment monumental, d'une beauté et d'une ampleur surhumaine, qu'encadraient des cheveux châtains clairs, un peu longs, le visage très pâle, ne portait ni barbe ni moustache et était rasé de près. Les dents étaient d'un blanc éclatant. Comment les caricaturistes vont-ils trouver leur Hugo?
Alors, à mon avis, le premier, c'est Dantan. dans ces petits bustes charges, qui fait son Hugo en jouant sur le front, bien sûr, et la crinière, et en accentuant énormément ce front. D'une certaine manière, même le beau buste de David d'Angers qu'on a dans nos collections, en Place des Vosges, lui aussi joue sur un tout petit peu sur ce front. Quand on regarde les lithographies qui sont les portraits de l'époque, Victor Hugo a certes un grand fond, il est pas si immense que ça. Il a peut-être les cheveux implantés un peu haut sur le crâne, mais voilà, ils accentuent. Il leur faut en fait un ou deux traits caractéristiques pour que d'un dessinateur à l'autre, on puisse reconnaître en fait immédiatement le personnage. Donc Victor Hugo, ça va être le front, ça va être les cheveux en crinière. Et ça va être très très vite au moment de l'apparition de Notre-Dame de Paris, l'association avec le monument qui va être Notre-Dame.
Pour fixer les premiers traits de la caricature, vous citez un buste, mais pour autant, en ce qui concerne le dessin, dans l'exposition, en tout cas, c'est à Benjamin Roubaud qui va collaborer aussi au Charivari, hein, de 1830 à 1835. C'est à lui que revient, dites-vous, de trouver véritablement les traits de Hugo. À quoi reconnaît-on, non pas Hugo, parce que ça, vous venez de nous le dire, on l'a bien compris, mais le trait si particulier de Roubaud?
C'est un dessin très précis, c'est pas un dessin de caricaturiste, c'est pas du tout Daumier, c'est une sorte d'anti-Daumier avec un dessin très précis, très, d'une certaine manière très précieux. J'allais dire ce très très joli d'une certaine manière. On a mis dans l'exposition un autoportrait en fait de Benjamin Roubaud qui se dessine en train de dessiner la caricature du Panthéon Charivari qui représente Hugo. C'est pas du tout sarcastique dans le dessin en tout cas, et même peut-être dans l'intention. Je sais pas ce qu'on pense.
Je ne sais pas dans l'intention. Ce qui m'a toujours frappé quand je regarde ce dessin que j'ai en ce moment sous les yeux à Caen. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une maligne intention de Benjamin Roubaud? Parce que quand on regarde...
Oui, il y a des mauvaises intentions partout. Hein.
Voilà, il semblerait qu'on ait sous les yeux un poète méditatif. Il ferme les yeux, semble-t-il, a les yeux baissés. Il tient à la main, donc sa plume, c'est bien un écrivain. Il a une autre main sur son front, il pense. Mais quand on regarde son regard, le regard plonge vers le bas du dessin. Or, que voit-on au bas du dessin? Sous les pieds, autour des pieds de Victor Hugo, il y a finalement des groupies, il y a des personnes qui sont en train de prendre finalement dans leurs bras les chaussures, les bottes de Victor Hugo. Est-ce qu'elles ne sont pas des lécheurs de bottes au premier sens? Et puis on a également plus bas, on a entre deux monuments parisiens, on a un coffre de rente. On a donc des petits personnages qui grimpent à une échelle et qui remontent, qui montent donc des sacs et des culs pour le déverser dans ce grand coffre de rente. Est-ce que ce n'est pas une façon, on l'a quelquefois reproché à Victor Hugo, de dénoncer un écrivain qui est intéressé par l'argent, tout en donnant l'impression, sous le dessin de Roubaud bien sûr, que c'est un poète méditatif?
Alors c'est ce que j'allais vous demander justement. Au fond, ces premières caricatures, c'est-à-dire, disons, jusqu'en 48, hein, jusqu'au moment de l'entrée en politique de Victor Hugo, sont des caricatures qui ont affaire avec Victor Hugo, l'écrivain, le dramaturge, le poète. Hein, pour la politique, ça viendra après, et puis de façon autrement plus féroce dans les caricatures. Ces premières caricatures-là, quel portrait psychologique dresse-t-elle de Hugo, Vincent Gilles?
L'écrivain, l'ambitieux, je pense que le grand front, c'est aussi un signe d'ambition, c'est le front qui crève le plafond, hein. C'est le chef de file, le premier de la classe, d'une certaine manière, qui se présente à l'Académie. Je pense que les dessinateurs, Victor Hugo s'est quand même présenté plusieurs fois avant d'être élu, ça a été compliqué, et d'une certaine manière, la moquerie qu'il y a dans les dessins qui accompagnent son élection et sa candidature à l'Académie signe bien que ce monsieur a les dents très longues, le front très large. Il vaut certainement quelque chose, mais il n'est pas le seul. Et à l'époque, il est souvent caricaturé au milieu de beaucoup d'écrivains, même si parfois il est en tête. Mais il y a beaucoup de gens autour de lui, ce qui deviendra assez rare à la fin de sa vie.
Il y a des cortèges, hein, qui est aussi une espèce de figure imposée de la caricature.
C'est
à cette époque-là.
C'est une manière de recycler. Ils ont dessiné des tas de personnages séparément, et puis tout d'un coup, ils en font un ils les rassemblent, si je puis dire, dans un cortège. Mais le grand dessin de Granville sur la grande course au clocher académique. Bon, Victor Hugo est monté sur ses grandes bottes qui sont faites avec ses œuvres complètes. Il a Notre-Dame en mitre, il a la crosse qui est une plume, et il a autour de lui, il est accompagné pour essayer de forcer la porte de l'Académie française. Il est accompagné de tous ses compagnons écrivains. Voilà, il est vu en chef de bande quand même. Voilà, donc le caractère ambitieux, le caractère orgueilleux. Il y a le petit dessin de Daumier qui reprend un discours, le discours de réception, et qui souligne dans la légende la manière dont Victor Hugo ponctue son discours de Napoléon, moi, Richelieu, Napoléon, moi, l'art, moi, le moi étant répété et important. Donc c'est tous ces traits-là qui remarque, et à l'inverse, quand au moment des Burgraves, la dernière pièce que Victor Hugo fait jouer, et qui est considérée comme un échec,
en 43,
les dessinateurs se donnent à cœur joie de pointer sur le soi-disant échec des Burgraves, échec public, hein, avec ce dessin, à mon avis, le plus drôle et le plus féroce de Daumier, qui place devant Victor Hugo, devant une affiche des Burgraves qui se joue donc au Théâtre français, il y a une comète qui passe dans le ciel, et Victor Hugo regrette que la queue des Burgraves soit plus étroite et plus courte que la queue de la comète. Donc voilà. Donc ça, visiblement, ça les amuse, l'échec des Burgraves, c'est quelque chose qui les amuse beaucoup.
Vous écoutez France Culture, La Compagnie des Poètes, par Manu Farid.
Vous parliez tout à l'heure, Gérard Pouchin, de Roubaud, qui figurait Victor Hugo regardant par au-dessus. Vous l'avez cité dans plein d'autres dessins encore, cette idée de regarder par au-dessus. Et Daumier le représente presque toujours de cette façon-là aussi, c'est-à-dire avec le regard tourné vers le bas, avec un visage très fermé, des yeux très perçants, très durs, quelque chose de très ombrageux, mais quand même souvent le regard qui descend. Qu'est-ce que cette orientation-là raconte ?
Daumier est né républicain, à la différence de Victor Hugo, et je pense qu'il a mis en doute, et les dessins, ces caricatures sont là pour le prouver, qu'il a mis en doute l'évolution politique de Victor Hugo. Et donc, il a tendance, effectivement, à le montrer comme un personnage renfermé, au-dessus des autres, bien sûr, les bras croisés. Donc, il semble traduire sa détermination, sa force personnelle, mais il est vrai que les dessins de Daumier, donc, laissent supposer, donc, une évolution politique de Victor Hugo dont il doute, ça c'est certain.
Et j'imagine qu'il n'est pas le seul.
Non, l'entrée officielle de Victor Hugo en politique, il faut juste rappeler l'élection à l'Académie à l'époque de Hugo, c'est évidemment une victoire esthétique du romantisme contre le classicisme qui trône à l'Académie. C'est aussi, et Victor Hugo insiste sans doute à cause de ça, c'est aussi pour lui l'occasion de faire son entrée en politique. Je rappelle que Victor Hugo a été nommé par Louis-Philippe, pair de France, au titre d'académicien. Et Victor Hugo, se présentant à l'Académie, sait très bien que rentrant dans ce corps constitué, il pourrait être, à ce titre, nommé pair de France. Et au moment de l'élection à l'Académie, la femme de Victor Hugo lui dit « tu rentres en politique ». Donc ça, pour Victor Hugo, l'entrée en politique, c'est d'abord 1841, l'élection à l'Académie, 1845, la nomination comme pair de France. Et puis, au moment de la révolution de février 48, c'est vrai que Victor Hugo, pour lui, il fait partie de l'ancien monde, si je puis dire, aux yeux des
conservateurs.
Il est proche de Louis-Philippe, il était pair de France, donc il peut pas prétendre, d'ailleurs il le prétend pas, être immédiatement républicain et immédiatement en faveur de Lamartine et de ses amis qui ont à ce moment-là pris le pouvoir. Ça va se faire lentement. Au moment de un peu après la révolution de février, les fils de Victor Hugo et deux de ses amis qui sont Paul Meurice et Auguste Vacry vont fonder un journal qui va s'appeler L'Événement, et tout le monde va penser que le véritable patron de L'Événement c'est Hugo, et donc non seulement les caricaturistes les républicains ont affaire à un député qui est pas fort franchement de leur bord, mais en plus il est patron de presse, donc ils vont s'en donner à cœur joie, ils vont en fait se méfier de ce Hugo entré en politique et de sa sincérité. Ils vont mettre en doute sa cupidité, ils vont laisser entendre que si Victor Hugo et L'Événement soutiennent la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la République, c'est qu'on lui a promis un ministère, en fait, ou quelque chose. Mais il avait de l'influence auprès de Louis-Philippe en tant que visiteur du soir, comme on dit à propos des gens de l'Élysée. Je pense que ça lui suffisait largement.
Parce qu'en novembre 48, le Charivari d'obédience républicaine, donc on l'a dit tout à l'heure, écrit « Nous retrouvons Monsieur Hugo Bonapartiste, il a chanté l'Empire, il a chanté le sacre de Charles X, il a chanté Louis-Philippe, il a fait acte d'adhésion à la République, il se prosterne aujourd'hui devant le prince Louis. Quoi de plus juste, les variations sont dans la nature de Monsieur Hugo. »
Oui, oui, ils sont très très méfiants. Et Hugo va mettre effectivement quelques temps, mais vis-à-vis d'eux comme vis-à-vis des républicains, de l'ensemble des républicains, y compris des députés, à gagner sa place et à gagner ses galons. Le fameux grand dessin de Daumier qui représente le député Victor Hugo en 49, où il a ce regard comme ça, cette attitude très très déterminée, très renfrognée, très repliée sur lui-même. Dans la légende, Daumier moque les discours de Victor Hugo, le Victor Hugo orateur. Il a l'air de trouver que c'est des grands mots pour pas grand chose d'une certaine manière. C'est très verbeux.
Alors c'est vrai que tout va changer, mais spectaculairement changer hein, au moment de l'exil. Alors puisqu'on parlait de cette exposition qui était aussi au fond l'histoire d'un corps, ou presque l'histoire de deux corps en fait, hein, parce que c'est quand même assez net lorsqu'on parcourt l'exposition. Je me demandais ce qu'il allait être fait justement de l'absence du corps de Hugo, c'est-à-dire au moment de l'exil hein, et de la disparition donc de la scène publique de Victor Hugo, qu'est-ce qu'il advient de ce corps dans le champ de la caricature ?
Il disparaît pas totalement, faut rendre hommage à Nadar. On oublie très souvent que Nadar, avant d'être photographe, est un grand dessinateur. Nadar est un des seuls qui, au moment où Victor Hugo est en exil, donc proscrit, donc il peut pas revenir en France, parce que s'il revient en France, il est immédiatement emprisonné. Nadar est un des seuls qui ose le citer et le représenter. Dans le grand Panthéon Nadar de 1853, en tête de cet immense cortège d'écrivains, il y a la figure et le corps de Victor Hugo.
Alors on quitte justement Victor Hugo avec son grand front, son très grand front, ses cheveux châtains, laissés un peu longs. Et puis on le retrouve en retour d'exil, cette fois avec donc cette fameuse chevelure très fournie, blanche, un peu en broussaille. Et puis cette grosse barbe blanche, barbe décidée je crois en 1861, hein, Guernesey il me semble. Je crois même que vous l'avez datée précisément, Gérard Pouchet. Le moment où il commence à faire pousser cette barbe, comme si Hugo choisissait brusquement presque sa nouvelle représentation graphique.
Alors j'ai toujours été amusé, finalement, fait une rotation de 180 degrés de la tête de Victor Hugo. Quand il est jeune, vous avez finalement d'abondants cheveux et un grand front. Translatez ceci sur 180 degrés, vous allez retrouver la même chose à l'envers. Vous avez la barbe qui a pris la place des cheveux, la grosse tête qui a pris la place du front. Donc c'est toujours le même Hugo, mais qui a finalement qui a fait une pirouette de 180 degrés.
Alors ce visage nouveau de Victor Hugo, il date d'avant l'exil en fait, il date du moment d'un peu de libéralisation du Second Empire au milieu des années 1860 et anticipant un peu sur la loi qui sera celle de 1868, il y a des tas de journaux, de la manière qu'on avait eu une floraison de journaux au moment de la Révolution 1830, on a une floraison de journaux, ceux que vous avez cités tout à l'heure, La Lune, le Grelot, Le Bouffon... La Lune qui va devenir l'Éclipse parce qu'il va être soumis à la censure. Vous avez une floraison importante de journaux qui paraissent à ce moment-là. Et il y a une conjonction qui fait qu'un jour de 1867, Victor Hugo reçoit à Guernesey la demande de 3 dessinateurs pour un portrait charge en couverture, qui sont Gilles, Pilotel et Carja. Et ces 3 portraits qui figurent bien sûr dans l'exposition vont paraître quasiment le même jour avec ce nouveau visage de Victor Hugo. Donc il a la barbe et moi j'avais retrouvé au moment où on diffuse les premières photos de ce Victor Hugo barbu, un journaliste qui avait écrit mais c'est impensable, personne ne va marcher avec ce visage de Victor Hugo barbu, qu'on nous rende le grand Victor Hugo romantique avec le grand front et la crinière de lion, ce Victor Hugo barbu va être épouvantable. C'était d'autant plus amusant que maintenant on a oublié le premier et qu'en fait on ne considère
que c'est vraiment celui-là qui s'est fixé.
Et à cette époque je suis gêné quand je parle de caricature dans la mesure où c'est vrai et il y a toujours une disproportion entre la tête et le corps, mais il n'y a plus aussi rarement, aussi légèrement, donc la nuance violente, la méchanceté, l'agressivité, ce sont des dessins qui participent d'une certaine façon à la gloire de Victor Hugo. Rappelons aussi que la plupart de ces dessinateurs sont aussi photographes. Donc ils connaissent parfaitement le visage de Victor Hugo, l'ont quelquefois photographié. Donc à ce moment-là, c'est vrai que la caricature, on garde le mot, donc perd une grande partie de sa charge caustique. Ça, c'est évident.
Alors précisément, Vincent Gilles, lorsqu'il rentre donc avec ce nouveau visage et qu'il est représenté avec cette barbe, petit à petit, on a même le sentiment que le corps lui-même va disparaître. Hein, petit à petit, c'est vraiment le visage de Victor Hugo qui va s'imposer. Est-ce qu'on peut, à ce moment-là, parler encore de caricature? Parce que c'est comme s'il y avait une coïncidence hein, entre ce nouveau corps et au fond ce que le dessin pouvait encore faire à ce moment-là.
Alors moi, je tranche la question en parlant de caricature, d'hommage et de consécration, en fait, qui sont des manières de figurer en utilisant encore les codes. On déforme plus le visage, on atténue ces déformations, mais il y a toujours, ce sont pas des photographies, donc il y a toujours un travail graphique et un travail de dessinateur. Il n'y a plus d'intention malveillante, si je puis dire, encore que il y a aussi des journaux qui, tout au long de du retour d'exil de Victor Hugo, soient plutôt féroces avec lui. Il a quand même suscité aussi, on va prendre l'exemple du soutien aux communards à partir de la Semaine sanglante. Victor Hugo avait des positions un peu partagées sur le tiède. Pas forcément tiède, mais il y a des choses qu'il supportait pas dans les actions de la commune. À partir du moment où les communards sont massacrés lors de la Semaine sanglante, immédiatement, Victor Hugo, depuis Bruxelles où il est après la mort de son fils, offre l'asile de sa maison aux gens qu'on pourchasse. Ça lui vaut un retournement à 180 degrés de la part de nombre des dessinateurs et des caricaturistes. Et ce soutien aux communards qui va perdurer, Victor Hugo, élu sénateur, n'aura de cesse que de faire voter au Sénat une loi sur l'amnistie des communards. Donc il change parfois d'avis, puis parfois il a des idées fixes qui durent très longtemps. Donc ça lui vaut encore quelques férocités et quelques dessins de caricature, mais grosso modo, le père Hugo... On continue à utiliser le code du dessin et le code de la presse et le code qu'ils ont inventé, mais sans, l'intention a disparu. L'intention malveillante ou caustique ou ironique a la plupart du temps disparu.
Ce qui me frappe, c'est lorsque le corps de Victor Hugo disparaît ou presque, lorsqu'on n'a plus sous les yeux que sa tête, sa grosse tête, on a très souvent finalement des éléments qui le valorisent. On a par exemple, à partir de cette époque, des étoiles sur le front de Victor Hugo, ou un point d'exclamation lumineux, où on a au-dessus de sa tête un soleil rayonnant.
Un rayon lumineux qui descend vers le bas, qui éclaire.
Il y a comme si Hugo devenait progressivement Dieu ou Dieu le Père, quelqu'un de lumineux, c'est le prophète, c'est le phare qui illumine, qui montre la route aux hommes. Donc là, on est en difficulté pour parler effectivement de caricature, c'est presque un portrait allégorique, c'est l'image du poète, donc qui est majestueux et qui est là pour accompagner, pour éclairer l'humanité.
Et puis, c'est le poète Vincent antique, Gilles. C'est l'archétype du poète antique, je veux dire, à partir des années 75-80, il est plus dans son costume d'homme du 19e, il est avec sa grande toge de poète antique.
Il est en blanc, hein, essentiellement.
Il est en blanc, il a deux accessoires qui sont la lyre et donc l'instrument même du poète et le lion pour la puissance, et souvent, il a encore, derrière le dos, comme dans le grand dessin de Luc, il a encore Notre-Dame de Paris.
Pour revenir, si vous permettez, à ce changement de regard porté sur Victor Hugo qu'évoquait Vincent tout à l'heure, il me revient à l'esprit deux caricatures de Bertal, qui au point de départ est très proche de Victor Hugo. Une caricature de 62, l'année de la publication des Misérables, où il a cette idée géniale d'ouvrir le crâne de Victor Hugo et de glisser dans ce crâne un grand nombre de personnages, donc des Misérables, comme pour montrer que Victor Hugo a donc une inspiration extraordinaire et que dans ce crâne, donc, on sonnait des personnages que le monde entier connaît. Mais en 1871, lorsque Victor Hugo, de façon symbolique, va inviter, donc, ceux qui souffrent en France, donc, les communards à se réfugier à Bruxelles, Bertal n'apprécie pas, il va reprendre en quelque sorte le dessin initial, il va à nouveau ouvrir le crâne de Victor Hugo et non plus placer des personnages de romans, mais placer des personnages ou des illustrations inquiétantes. On a un chat noir, on a un drapeau rouge, on a même une gigantesque araignée qui a fait sa toile, comme pour dire Hugo a une araignée dans le plafond, c'est quelqu'un donc qui a des problèmes de santé mentale. Là, il y a un changement radical qui est parfaitement illustré par la caricature de Bertal. Les caricatures de Bertal.
Le médium était concentré. L'assistance était convulsée. La table soudain a remué.
Et l'esprit frappeur a frappé.
Qu'est-ce que c'est?
Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui a fait ce bruit-là. Non, l'esprit n'est pas encore là. Unissons nos fluides et recommençons nos ébats que le chat gâcha. Puis un souffle étrange a passé. Une ombre au mur s'est profilée. L'assistance s'est mise à trembler. Mais le médium a déclaré:
mais non, voyons, non.
Ce n'est le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est le petit bout de la queue du chat qui passait par là. Non, l'esprit.
La queue du chat, on s'en doutait un petit peu, interprétée en 66 par les frères Jacques. Magie de la transition, Gérard Pouchin, hein, puisque c'est une chanson qui dit à la fois la satire ici des séances spirit, hein, les tables parlantes ou tournantes, hein, table dont il est largement question dans Choses nocturnes que vous rassemblez aux éditions Le Vistamboir. Est-ce que c'est aimablement pour faire transition que vous avez voulu faire entendre cette chanson des frères Jacques, Gérard Pouchin?
Et on m'a demandé si je pouvais proposer telle ou telle illustration. On m'a pris quelque peu de cours et il m'est revenu cette chanson amusante que j'avais à l'esprit et que j'avais même encore au fond de mes yeux, si j'ose dire, avec cette mise en scène chère au frère Jacques, qui me semblait taquine.
Alors, le magnétisme, justement, le recours au médium, les tables parlantes, etc. On connaît tout cela d'Hugo désormais, mais ce pan-là... un temps, en tout cas, était un petit peu occulté, hein, y compris dans la littérature le concernant. D'autant plus que Hugo, si prolixe, n'en dira rien, en tout cas dans le domaine public, hein, officiellement, rien ou peu. Ce qu'il en reste, et il en reste beaucoup, hein, figure dans les carnets, dans les descriptions que son entourage a pu en faire, notamment sa fille, Adèle, hein, qui va consigner plusieurs séances, notamment, évidemment, Juliette Drouet, qui s'en méfie beaucoup. Comment expliquer que la presse, hein, puisque c'est ce dont on parlait à l'instant, que la presse ne s'en fasse absolument pas le relais? Comment expliquer cette pudeur? Par l'exil, qui sera pour l'essentiel le lieu de ces expérimentations?
Bien, Hugo découvre le spiritisme, les tables parlantes, en exil, donc à Jersey. Donc c'est dans un peu d'atmosphère très très limitée, à la famille, à quelques amis. Les journaux n'en parlent évidemment pas. J'ai regardé les journaux de Jersey, dont aucun journal ne fait allusion à cette découverte de Victor Hugo, qui ne souhaitait pas qu'on en parle. Vous évoquez à l'instant donc sa fille Adèle, qui dans son journal là, du 7 février 1954, rapporte les mots de son père. Il craint, je cite, d'être ridiculisé, ou il craint, je cite encore, d'être accueilli par un immense éclat de rire. Donc Hugo a des doutes sur la façon dont le public pourrait recevoir cette nouvelle pratique de Victor Hugo. On n'en parle pas. Il y a de temps en temps un petit écho dans une lettre de Vacry, d'Auguste Vacry à sa famille, mais tout ceci reste très très discret. Il faudra attendre, je crois, 1923, si ma mémoire est exacte, pour avoir les premiers procès-verbaux de ces tables parlantes éditées. C'est resté finalement très caché. Daumier, qui est proche de Victor Hugo depuis très longtemps, dont Hugo Daumier va proposer une douzaine de scènes de fluidomanie, donc des gens qui sont autour d'une table, et à aucun moment il y a un personnage qui ressemble de près ou de loin à Victor Hugo. Ça reste évidemment très confiné, très isolé.
Parce que pour autant, il n'est absolument pas le seul. Alors là, effectivement, on parlait précisément des expériences de table parlante durant son exil, mais il est déjà... avant l'exil, relativement sensibilisé à des séances avec des séances de magnétisme, des choses comme ça. Donc ces choses-là se savent, il n'est pas le seul. Il y a même une certaine mode, hein, autour de toutes ces expériences-là.
Oui, mais c'est vrai, vous avez raison, que Hugo a toujours été intéressé par ce qui dépasse finalement le quotidien,
invisible,
qui dépasse donc ce que l'on a sous les yeux, intéressé par les grands phénomènes qui restent inexpliqués. Il pratique, on le sait, il assiste à des séances de magnétisme, de somnambulisme à Paris, et on sait aussi que lorsqu'il est à Guernesey, dans sa grande maison d'exil, hein, il va recevoir, c'est quand même quelque peu étonnant, un médecin, le docteur Lin, qui a des vertus tout à fait particulières. Voici ce que dit le journal de Guernesey, la Gazette de Guernesey, présentant ce docteur, que Victor Hugo va inviter chez lui. Le docteur Lin se tranche la tête de la manière la plus extraordinaire. Le docteur semble s'enlever la tête de dessus ses épaules. Le corps se promène sur la scène de la manière plus comique, trompant à la fois les sens et le jugement des spectateurs. Avec la tête ainsi séparée du corps, le docteur Lin exécute sur le violon le solo du carnaval de Venise. L'unique explication, ajoute le journaliste, que nous soyons à même d'offrir est celle d'une habitude incessante et continue et l'habileté qu'a le docteur Lin à manier les plus petites mécaniques, une profonde connaissance des forces et des lois de l'optique, du magnétisme, de l'électricité, des couleurs opaques, etc., etc. Donc c'est un charlatan, c'est un magicien, mais il n'empêche que Victor Hugo va inviter ce magicien à se produire chez lui et pour lui. Et je participais à un colloque à Guernesey à la fin du mois de juin de cette année, et l'un des assistants est venu m'apporter, il m'a accepté que je fasse la photocopie de ce document. Donc c'est une lettre de Victor Hugo, datée de Odile House le 26 juin 1868, et c'est une lettre qui dit beaucoup de choses sur la relation entretenue entre Victor Hugo et ces choses bizarres. Voilà. « Monsieur, la séance que vous avez donnée chez moi m'a intéressé au plus haut point. Plusieurs de vos expériences t'appellent l'attention de la science. » Vous obtenez des résultats surprenants. Vous voulez bien me demander si je suis satisfait. Je suis satisfait et étonné. Recevez l'assurance, etc., etc. Hugo, donc, est passionné par cet aspect, ces révélations, et en dépit des rappels à l'ordre, en quelque sorte, de Juliette, il continue, donc, cette relation avec ce qui est quelque peu surprenant.
Alors la première séance de table tournante se déroule à Jersey, hein, on connaît l'histoire, hein, le 11 septembre 1853, on est à peu près 10 ans après la mort tragique de sa fille.
Quelques jours près, c'est le 10e anniversaire, absolument. Vous avez raison.
Par l'intermédiaire de Delphine de Gérardin, suite à cette première séance, hein, alors il est très sceptique au début, mais suite à ces premières séances, à partir de là, il va dialoguer avec une centaine d'esprits, on vous les citez, hein, vous en citez quelques-uns, Platon, Molière, Jésus, Galilée, Dante, mais aussi avec le drame, la mort, le bonheur, la rêverie, la critique. Hein. Alors, qu'est-ce que ces choix-là, ces choix d'interlocuteurs, hein, d'une certaine façon, racontent de ce qu'il en espère, de ce qu'il en attend, Vincent Gilles ?
Je rappelle juste qu'on a consacré il y a quelques années une exposition à la maison de Victor Hugo à cette époque des tables parlantes et au rapport entre Hugo et le magnétisme et le spiritisme qui était entrée des médiums. Exposition faite par Gérard Audinet. Victor Hugo était à la fois, enfin, il a eu un rapport très très étrange avec ses séances. Il était d'abord pas toujours présent, il n'a pas participé à toutes les séances. Il intervient très souvent pour poser des questions aux esprits et demander des éclaircissements, notamment sur les rapports étranges que ce que disent les esprits entretiennent avec son œuvre. Il n'a pas une attitude, il se pose des questions, il va même jusqu'à soupçonner à un moment donné que ce qui se passe c'est l'esprit de Charles, puisque le médium en fait c'est pas Hugo, c'est Charles, son fils, et il dit très nettement à un moment donné, de manière très explicite, peut-être que ce qui se passe et ce qui s'exprime ici c'est Charles.
Et lire aussi par la suite, si on en croit un journal d'Adèle, pourquoi nier ce monde intermédiaire? Pourquoi trouver surnaturel ce qui est naturel? Pour moi la surnature n'existe pas, il n'y a que la nature. Oui, il est naturel que les esprits existent.
Gérard Pouchin, on l'a bien compris, hein, vous venez de le dire, il est question de table parlante, mais assez peu, dans Choses nocturnes, et même, assez peu. Il est en fait bien plus largement question de ce lien qui est à la fois terrible et profond que Hugo entretient avec la nuit, avec ce qu'il y voit, ce qu'il y entend, ce qu'il y imagine. Donc au gré des carnets, hein, vous collectez des fragments de poèmes, parfois soufflés d'ailleurs la nuit, mais aussi la façon dont il consigne ses insomnies, qu'on note aussi, hein, dans sa correspondance avec Juliette. Elle s'inquiète beaucoup des nuits qu'il passe, de ses visiteurs la nuit, hein, qui sont des nuits peuplées de morts, de voix, de phénomènes étranges, de toutes sortes de considérations aussi météorologiques parfois, parce qu'il voit des tempêtes, des comètes. Il rêve beaucoup et il consigne longuement ses rêves, hein, comme ceux de son entourage. À quoi ou de quoi rêve Hugo ?
Mais Hugo rapporte dans ses carnets donc tout ce qu'il a pu entendre, ce qu'il a pu voir, avec notamment un intérêt tout particulier pour le spectacle « Le ciel peut lui offrir la nuit hein. ». Il y a par exemple certaines phrases qui traduisent bien cet intérêt. « 24 juin 60, étoile qui m'a paru une comète ». Et le lendemain, il va noter dans son agenda, l'étoile que j'ai vue hier avec Gigi, donc avec Julien Drouet, est en effet une comète. Le mauvais temps ayant caché le ciel depuis jour, elle est apparue brusquement. Et il a de la suite dans les idées. Deux semaines plus tard, il va écrire, le moniteur dit que la nouvelle comète a été vue pour la première fois le 19 juin au camp de Châlons par le chef d'escadron Marguerite. Pour la deuxième fois, le 22 à l'Observatoire de Paris. Je l'aperçus ici le 24, je serai donc le troisième observateur. Il y a d'abord un regard très très intéressé vers le ciel, vers tous les phénomènes atmosphériques. Et puis c'est quelquefois un véritable astronome qui s'explique, qui s'exprime. Par exemple le 13 décembre 72, il note « Il tombe depuis un mois des quantités considérables d'aérolithes et d'étoiles filantes, déjà plus de 44 000. Au dire de quelques astronomes, nous traversons dans ce moment la queue, quelques-uns disent le corps même de la comète Biela. C'est selon moi une erreur. » Le système à la mode sur les comètes sera, je crois, démenti par l'avenir. Les comètes sont de vrais corps célestes, de vrais astres, et non des illusions d'optique, comme il est convenu de le dire aujourd'hui. Alors, donc, il y a vraiment un intérêt constant de Victor Hugo en exil, donc vers le ciel.
Alors oui, justement, si Hugo dit qu'il a commencé à chercher par les prunelles, puis le télescope, puis l'esprit, qu'est-ce qui motive au fond l'écriture minutieuse de ses rêves? Parce que vous en rapportez, vous en collectez certains dans cet ouvrage.
Mais ce sont des rêves qui sont faits la nuit, comme il dit, ce sont des rêves faits en dormant, faits dans la nuit, faits, comme il l'a dit, dans le sommeil. Et Hugo, très rarement, avec un commentaire, se contente de rapporter ce que la nuit a soufflé. Par exemple, il y a ce petit poème « L'eau remplit la maison de ses souffles funèbres, il est nuit, tout se tait, les formes des ténèbres vont et viennent autour des endormis gisants. Pendant que je deviens une chose, je sens les choses près de moi qui deviennent des êtres. Mon mur est une face et voix, mes deux fenêtres blêmes sur le ciel gris me regardent dormir. » Il est très rare que Victor Hugo donc essaie de commenter ce que la nuit lui a soufflé. C'est extrêmement rare.
Alors, Chose nocturne s'ouvre, Gérard Pouchin, en 1827. Hein, Hugo a 25 ans. Il écrit « Les étoiles clignent des yeux, voici la nuit. Les bourgeois allument leurs chandelles et le bon Dieu allume ses étoiles. Une lumière vague comme celle qui sort la nuit de l'œil d'un chat. » Et s'achève en 1885, hein, évidemment au moment de sa disparition, avec ses supposés derniers mots, hein, le fameux alexandrin, c'est ici le combat du jour voilà. Contre la nuit. Et entre-temps, évidemment, tous ces carnets, enfin en tout cas vous collectez au sein de ces carnets les différentes façons qu'il a de d'écrire et de consigner la nuit. Quels étaient les enjeux d'une telle collecte pour vous, c'est-à-dire de rassembler justement toutes ces notes, tous ces écrits sur la nuit, sur ce que la nuit fait à Victor Hugo. Après tout, ce sont, j'imagine, des carnets que vous aviez déjà lus. Est-ce que ça vous a permis de comprendre autre chose de Victor Hugo, vous qui le fréquentez tellement ?
Bien dire, au point de départ, la seule façon d'accéder à un certain nombre de ces notations nocturnes, c'était ce qu'on appelle l'édition Massin, cette édition chronologique publiée dans les années 1970 par de jeunes universitaires, donc proches de Victor Hugo. Et depuis donc 70-75, aucune édition ne s'est intéressée à ces problèmes nocturnes de Victor Hugo. D'où cette idée de ressortir d'un ouvrage dépassé, on peut le trouver quelquefois d'occasion, mais c'est quand même un ouvrage qui n'est pas sur dans toutes les bibliothèques, donc de retirer de ces carnets ce qui concernait le regard porté par Victor Hugo sur le ciel, d'évoquer les vers qui sont faits en dormant, d'évoquer aussi finalement les bruits, les rencontres donc nocturnes, et tout ceci, finalement, a été complété par un certain nombre de notes qui étaient restées dans les manuscrits de Victor Hugo, donc à la BNF. On le sait, les dernières années de Victor Hugo, les années 78-85, n'ont pas été consignées en totalité dans les carnets. Il y a énormément de lacunes, et j'ai donc travaillé à partir des manuscrits, et dans bien des cas, j'ai rectifié une erreur de transcription. Il faut reconnaître que l'écriture de Victor Hugo n'est pas évidente, et puis ajouter un grand nombre donc de notations, comme si ces exécuteurs testamentaires n'avaient pas voulu trop insister sur cette réalité peut-être gênante, peut-être Hugo risque-t-il d'être taxé de fou ou de malade. Donc j'ai un petit peu le sentiment qu'on a mis de côté, volontairement, mais je me trompe peut-être, de côté un certain nombre de ces notations et de les laisser dormir dans les carnets de Victor Hugo.
Alors que c'est vrai qu'on peut se poser la question une fois toutes ces notes réunies, forcément, puisqu'elles sont, il y a une espèce de concentration de ces visions nocturnes. Par exemple, en 1866, il écrit... 16 novembre, il écrit « Le phénomène m'a empêché de dormir une partie de la nuit. Souffle, bruissement, secousse, parfois de sourds aboiements dans ma chambre et à mon oreille. La nuit du 16 au 17 novembre, avant de m'endormir, phénomène, voix, paroles prononcées, articulées et inintelligibles. Le 21 novembre, à partir de 5 heures du matin, petits coups secs partout dans ma chambre et jusque sur moi. Bruit intermédiaire entre un pétillement d'étincelles et un cliquetis de gouttes d'eau. 28 novembre, cette nuit, deux frappements à mon chevet, l'un à 3 heures, l'autre à 5 heures. 29 novembre, les frappements ont continué cette nuit. 30 novembre, continuation des phénomènes nocturnes. Cette nuit à 11h30, comme je venais de me coucher, seule encore éveillée dans la maison, trois coups violents à mon chevet, au milieu du profond silence de la nuit, etc., etc., etc.
Et je complète, si vous permettez, par cette belle notation, pour moi elle est très importante, du 5 mai 54, donc à Jersey, donc au moment même où Hugo pratique encore l'étable. « Autrefois, je m'endormais comme un homme tranquille. Maintenant, je ne me couche jamais sans une certaine terreur, et lorsque je me réveille la nuit, je me réveille avec des frissons. » J'entends des esprits frappeurs dans ma chambre et ce bruit-ci. Donc Adèle, sa fille, rapporte qu'il cogne sur une table à ce moment-là. Il y a 2 mois, ajoute-t-il, avant que la Dame Blanche est un esprit familier de Marine Terrasse, la maison d'exil à Jersey, avant que la Dame Blanche n'eût dessiné son portrait, je n'éprouvais pas cette terreur. Mais maintenant, je l'avoue, j'éprouve l'horreur sacrée. Alors, j'ai le sentiment que Hugo est partagé à la fois donc inquiet donc des manifestations nocturnes qui vont venir, et puis aussi dans l'attente de ces mêmes phénomènes, puisqu'ils vont redoubler ou presque 10 ans après la pratique des tables parlantes, donc en 63. Adèle Hugo est partie bien loin, c'est la Barbade, elle est partie donc en quête d'un amour impossible, et Hugo, donc, qui avait déjà perdu sa fille Léopoldine en 43, se retrouve à nouveau sans sa seconde fille, sans Adèle, et il semble qu'à ce moment-là, Hugo est encore plus soucieux de se mettre à l'écoute des bruits venus de la nuit, comme pour engager un dialogue quelque peu mystérieux avec sa fille. Il en ira de même après la mort de son fils Charles. Hugo donc partagé, la nuit que va-t-il se passer? Quels sont les bruits qui vont se manifester? Et quels sont les fantômes, le mot employé rarement par Hugo, mais il l'emploie, que je vais peut-être apercevoir? Et aussi de se dire, c'est le moment propice pour être plus à l'écoute des voix qui se sont tues.
Ce qui expliquerait par exemple que Lacroix, le 23 mai 1885, donc à sa mort, écrira « Il était fou depuis plus de 30 ans, que sa folie lui serve d'excuse devant Dieu ».
Voilà, ben ça, évidemment, on ne peut pas donc éliminer des propos malveillants. On les évoquait tout à l'heure pour la caricature.
C'est vous qui les évoquez,
il y en a aussi, absolument, absolument. Je le cite parce que c'est une façon de recevoir. Enfin, certaines personnes ont reçu Victor Hugo de cette façon.
Cette entrée dans la nuit, comme une entrée dans l'horreur sacrée, justement, à quel moment se manifeste-t-elle? Parce qu'en fait, vous relevez ce rapport à la nuit sur une période très 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 longue. Comment ce rapport-là à la nuit va évoluer entre justement le jeune Hugo de 20 ans et le Hugo vieillissant?
Mais à mon sens, le jeune Hugo est sensible, c'est le jeune poète qui regarde des phénomènes et qui n'essaie pas de les expliquer, qui ne va pas approfondir ce qu'il a sous les yeux. Mais en exil, les choses vont être différentes, et à partir de cette rencontre avec les tables parlantes, il y a une pratique régulière, Hugo étant l'attente finalement de ces phénomènes nocturnes. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que Victor Hugo avait sans doute le sentiment de ne pas pouvoir être cru si un jour on devait proposer ses écrits. Or, il a toujours toujours la volonté de les écrire comme un scientifique, donnant en quelque sorte des preuves. Ce qui m'a frappé, par exemple, c'est que systématiquement, il va accompagner ses interventions sonores de notations de temps très précises. Par exemple, encore 3 coups entendus de ma chambre à 4h30 du matin. ou encore « Cette nuit, deux frappements à 2 heures et à 5 heures ». Et non seulement Hugo a la volonté de donner l'heure, comme pour donner crédit à ce qu'il a noté, mais également de donner des précisions quant au nombre de coups, de ce qu'il appelle souvent les frappements de réveil, quand les coups sont entendus donc vers 5 heures ou 6 heures du matin. Par exemple, le 10 décembre 67, 6 coups, différemment accentués, chacun semblant donner la réplique à l'autre. Ou encore 9 coups consécutifs et saccadés. Ou encore, la volonté est encore plus expresse, 28 juin 67, 10 coups, frappement brusque. Et il ajoute même le rythme, il écrit 1.2.3.4, comme s'il voulait dire 1.2.3.4. Il écrit un petit tiret, donc un silence en quelque sorte. Et il écrit après 5.6.7.8, comme s'il y avait un tiret et 9.10, comme s'il y avait eu 1.2.3.4, 5.6.7.8. 9-10. Donc, une volonté pour Hugo de nous faire presque entendre ce qu'il a lui-même entendu.
Gérard Pouchin, Vincent Gilles, merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission, ou presque, puisque je vous laisse la terminer. Entre vous et sans moi, exercice incertain, sans vous voir, l'un à Paris, l'autre à Caen, donc. Je vous laisse la terminer. Bon après-midi à vous, à toutes et à tous.
Je voudrais juste, ça m'évoque 2 choses, cette discussion sur le nocturne. Il me semble que la part nocturne de Victor Hugo, elle a toujours été fondamentale. Quand on regarde ses dessins, je veux dire, le clair ne peut naître que de l'obscur, en fait. La pratique du la-vie et de ce jeu incessant que Victor Hugo fait entre le sombre et le clair, il me semble que plus il va dans la vie, plus il pense que ce qu'il peut y avoir de lumineux, et ce qu'il peut y avoir de la quête ne peut partir et ne peut naître que de l'obscurité et d'une certaine manière que de la nuit. La seconde chose, c'est ce grand texte de Victor Hugo sur le rêve qui part du ciel, qui est le promontoire du songe, qu'il écrit en 65-66 et qui naît de l'observation du ciel en fait et de l'observation de la lune à l'intérieur du ciel. Et la troisième chose, je m'excuse, mais c'est ce rapprochement. Le surréalisme, il naît de phrases de réveil, de phrases que Breton entend et qui lui viennent dans l'esprit au moment où il se réveille. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ce qui l'intrigue, c'est que c'est ce qu'il va pouvoir tirer de cette part nocturne. Et il me semble que là encore, il y a une filiation entre ce que pratique Hugo de manière très très étrange, très continue, très très effectivement très inquisitrice et très très demandant des preuves. Je pense que Gérard Pouchin a tout à fait raison. Et ce qu'on peut en tirer dans le jour.
Et en écho à ce que dit Vincent, je voudrais terminer par une phrase pour l'une des plus belles écrites par Hugo en avril 56 dans son Lookout de Hauteville. « Je vis dans une solitude splendide, comme perché à la pointe d'un rocher, ayant toutes les vastes écumes des vagues et toutes les grandes nuées du ciel sous ma fenêtre. J'habite dans cet immense rêve de l'océan, je viens peu à peu un somnambule de la mer, et devant tous ces prodigieux spectacles et toute cette énorme pensée vivante où je m'abîme, je finis par ne plus être qu'une espèce de témoin de Dieu. C'est de cette éternelle contemplation que je m'éveille de temps en temps pour écrire. Il y a toujours sur ma strophe ou sur ma page un peu de l'ombre du nuage et de la salive de la mer. Ma pensée flotte et va et vient comme dénouée par cette gigantesque oscillation de l'infini. Ce qui ne flotte pas, ce qui ne vacille pas, c'est l'âme devant l'éternité, c'est la conscience devant la vérité.
Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Frédéric Changenet pour la technique et à Patrick Chanteclair pour le duplex à France Bleu Normandie depuis Caen. Merci à François Connac pour la réalisation, à Vincent Gilles et Gérard Pouchin. Le week-end consacré à Victor Hugo, notre contemporain, se poursuit jusqu'à dimanche sur France Culture. Vous en trouverez le détail sur le site de l'émission, à réécouter ou podcaster. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction, mais tout de suite, c'est l'heure de la méthode scientifique par Nicolas Martin.